De la légende musicale à travers le festival le plus légendaire de la planète potentiellement. Xavier Borgeau, bonjour.
Hello, c'est joliment dit tout ça. Exactement, avant-dernier volet de notre série de la semaine consacrée donc aux 60 ans du Montreux Jazz Festival. En attendant l'édition 2026 qui se tiendra sur la Riviera du 3 au 18 juillet prochain, nous avons rencontré dernièrement Mathieu Jaton, le directeur du Montreux Jazz. En sa compagnie, nous avons évoqué les débuts du festival en 1967, puis nous nous sommes intéressés à la personnalité haute en couleur du père fondateur du festival, Claude Nobs. Mais ce soir, c'est un événement douloureux qui est évoqué avec l'accident survenu en 2013 qui a causé la mort de Claude Nobs. Un moment marquant, mais qui n'a pas été vécu uniquement comme une déchirure par ses proches, mais aussi comme une forme de continuité. Et quelques mois avant ce drame, il planait déjà dans l'atmosphère une sensation très forte qui n'a fait que renforcer le lien existant entre Claude Nobs et le directeur actuel du Montreux Jazz, Mathieu Jaton.
On a vécu des moments étonnants, on s'est retrouvé à Londres, où justement il m'a présenté à tous les agents, en disant bon, maintenant vous m'écrivez toujours avec Mathieu en copie, puis vous attendez que Mathieu réponde. Enfin, il y a des choses un peu particulières. Je me rappelle surtout ce soir du 23, en fait, cette journée du 23. Le 23 décembre, c'est un truc bizarre chez nous, mais... en fait, on est au bureau, la veille de Noël, et on savait que cette période de Noël avec Claude est toujours un peu compliquée, parce qu'il n'aimait pas que le bureau parte en vacances. Il était tellement super actif que ça saoulait un peu ces histoires où on partait en vacances. Et donc, chaque fois, le vendredi avant de partir, il me dit « oui, je descends au bureau », puis généralement, il descendait à 18h, histoire de faire traîner encore la chose, puis après, on allait manger au casino, et puis... Donc, j'ai dit un peu aux équipes « allez, partez en vacances, moi, je reste au bureau ». Je crois qu'il y avait Michaela et Stéphanie qui étaient là. Et déjà, Claude, étonnamment, arrive à 14h, au bureau, il va voir Michaela, après il s'assied sur mon bureau, il regarde Viviane, il dit « ah, il y a du courrier pour moi », et puis, parce qu'on dit toujours l'histoire des cartes de vœux, s'il dit les cartes de vœux, enfin un cirque, puis Viviane lui donne les cartes de vœux, et puis il dit « ah, ben, très bien, je les prends, puis je signerai ça entre les fêtes, ok ». Et puis, vous avez reçu, en fait, aussi une invitation de Willy Leiser pour aller à un concert ce soir de gospel. Et là, Claude, il prend l'invitation. Ça faisait très longtemps qu'il n'avait pas eu Willy. Donc, Willy, c'était aussi quelqu'un qui avait beaucoup compté pour lui, qui avait organisé tous les concerts gospel au Montreux Jazz. Et Claude lui devait beaucoup pour... il avait fait des choses extraordinaires. Il avait vraiment amené le gospel au Montreux Jazz. Et puis, ça faisait un moment qu'il ne se voyait plus. Et là, Claude prend l'invitation et puis il dit « ah, super, super. On apprendra... » que dans la soirée, non seulement il a accepté l'invitation, mais il n'a pas dit à Willy, il a été à ce concert, et il s'est mis dans la salle, ce qui est très rare pour Claude, généralement il est plutôt en backstage, etc. Il a regardé tout le concert de gospel dans la salle, et après il était dire bonjour à Willy, puis ils sont montés à Châtel-Saint-Denis, au Tivoli, manger une fondue, et après il est rentré au chalet. Donc c'était des choses, avec le recul, quand on le regardait, qui n'étaient pas complètement habituelles de la part de Claude, et donc il monte au chalet, puis après... Moi, c'est une partie que je sais pas exactement ce qui s'est passé, mais voilà, donc il est parti en montagne, il est tombé à ski. Et je me rappelle ce téléphone le lendemain, je crois que c'est Laurent Verly qui m'avait appelé pour m'annoncer ça, que Claude avait un accident, qu'il était au CHUV, qu'il était dans le coma. Et il y a eu, à partir de ce moment-là, c'était assez compliqué parce qu'il fallait gérer la com, donc avec le CHUV, avec Thierry, surtout, en fait, on était vraiment... les deux à faire attention que ça sorte pas. On savait pas trop ce qui allait se passer, on savait pas trop comment les choses allaient se passer. Il y a ce moment qui est déjà dans le drame, qui était assez beau, en fait, entre Thierry, moi, Michaela, enfin les proches de Claude, où on se retrouvait à l'hôpital, en fait, presque juste une poignée de personnes, en fait, à être proche de Claude, en espérant qu'il revienne, après on a vite un peu perdu des illusions. Mais il y avait ce moment un peu suspendu, assez particulier, donc c'était des fêtes de Noël un peu particulières, comme vous pouvez l'imaginer. Et puis, le jour où il est parti, on savait qu'il allait gentiment partir, et avec Thierry, on s'est dit, est-ce qu'on peut se retrouver au Palace, ici, avec les personnes qu'il a le plus aimé, qui l'ont accompagné, qui ont vécu quelque chose avec lui, surtout les personnes qui savent très bien, qui nous avaient toujours dit « le jour où je pars, je veux que vous mettiez la musique à fond et que vous ouvrez une bouteille de rouge ». Et je me rappelle, on se retrouvait dans le lobby ce jour de 10 janvier, c'était 17h exactement, dans le lobby, et là arrivent André Buchler, Michel Ferla, tous les gens très proches de Claude, désolé, j'ai oublié d'en citer plein, évidemment, et on... À 17h, le téléphone de Thierry sonne, le mien sonne. Chacun, on avait une autre personnalité du CHUV pour nous annoncer que Claude était parti. Et là, on est monté dans une suite qu'il adorait. Et on a respecté exactement ce vœu. On a ouvert une bouteille de rouge. plusieurs parce qu'on était bien une dizaine, douzaine. On a amusé la musique à fond et c'est comme ça qu'on a rendu hommage à Claude à ce moment-là entre nous et c'était magnifique. Et après, en fait, on était tous là autour de la table et on se disait, mais voilà, on doit annoncer ça au monde maintenant. Et ce moment, il était absolument magique parce qu'on s'est dit, qu'est-ce que Claude aurait voulu ? Et on a tous rigolé à ce moment-là en disant, mais en fait, Claude aurait trouvé très marrant en fait, qu'on envoie cette information à minuit pile et que tous les journalistes qui sont dans leur lit doivent se lever et courir dans tous les sens pour annoncer ce truc. Mais plaisanterie mise à part, donc désolé aux journalistes si on vous avait fait vous réveiller pendant la nuit, mais plaisanterie mise à part, c'était aussi qu'on s'était dit on ne lance pas le communiqué avant qu'on ait pu appeler toutes les personnes qui ont compté pour Claude et dans son entourage. Et on a fait en une heure les listes, comme ça on a tout sorti, tous les numéros de téléphone, et on s'est tous mis au téléphone, et un par un, on a appelé tout le cercle de Claude, les artistes, les musiciens, les managers, les agents, etc. Et après on a juste posté un texte, je ne sais pas si vous vous rappelez de ce texte, qu'on a posté sur les réseaux et qu'on a annoncé à la presse. Et en fait, parce que pour nous, c'était tellement important que tout l'entourage de Claude soit informé avant et que tout le monde puisse aussi, ben, évidemment, les Quincy, enfin, toutes ces personnes-là. Et c'était un très bon moment, en fait. Et Claude était là, il était juste avec nous, il était présent et ça représentait quelque chose d'assez fou.
Beaucoup de respect et d'amour dans le discours de Mathieu Jatton. Et toujours en filigrane, hein, cette passion omniprésente pour la musique, les musiciens et le plaisir des festivaliers. Et c'est ça, le Montre Jazz. Demain, dernier volet de notre série 60 ans du Montre Jazz, avec la nomination de Mathieu Jatton en tant que directeur du festival. Un nouveau chapitre que nous allons découvrir avec le principal intéressé.